Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes presque en juillet 2013 et c'est le numéro 26. Bonjour à tous, pour ce numéro estival, je suis entouré de Côme.
Bonsoir.
De Mickaël.
Bonsoir.
Et d'Owenlock, qui est de passage à Paris-Plage.
Et qui ne prend pas ombrage quand il appelle Sébastien. Bonsoir.
D'accord.
Pas de soucis.
Ok, c'est noté.
Non, mais alors. Comme ça, j'ai l'impression d'être une vraie personne, tu sais.
Nous avons Wenlock, qui se dissimule sous cette perruque. Alors, vous êtes rôliste. Alors, au sommaire de cette émission, nous aurons donc Don't Trust Your Head.
Tout à fait, quel bel accent.
T'as vu un peu, ouais, j'ai fait un gros effort.
On a répété avant l'émission.
Et Mickaël, tu vas nous parler de...
Star Wars Edge of Empire Beginner Game, la boîte d'initiation de Star Wars Edge of Empire.
D'accord, merci. Et en deuxième partie d'émission, nous allons donc discuter avec Seb. Et nous allons parler de...
Des différentes fonctions du MJ, de ce qu'on peut faire quand on passe un petit peu de temps et les analyser.
D'accord, on va voir ça tout à l'heure. Bon, et bien je propose que nous commencions tout de suite avec Don't Trust Your Head. Ah, il n'est pas prêt.
Oui, tout à fait, je suis prêt.
Hop. Il n'avait pas fait ses devoirs.
Voilà, si, 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 bien sûr.
Ah, c'est bien.
Alors, je précise pour commencer que j'ai lu la VO du jeu. La VF est sortie en mai dernier, il me semble, chez les écuries de GS.
Même un peu avant.
Un peu avant,
en avril.
Je sais pas, enfin, voilà, il y a quelques mois. Mais je ne l'ai pas lu, donc ça implique deux choses. D'une part que les termes là, que j'ai traduits ne sont peut-être pas des traductions officielles. Et d'autre part, j'y reviendrai, mais le jeu français est vendu avec un supplément que je n'ai donc pas lu non plus. C'est donc un jeu de rôle de Fred Hicks. Qui a pour pitch la proposition suivante. Vous incarnez des gens qui n'arrivent pas à dormir pour une raison de leur choix. C'est vous qui choisissez pourquoi votre personnage ne peut pas dormir. Et à cause de ces insomnies, les joueurs, enfin les personnages plutôt, deviennent des éveillés qui ont accès à la ville démente, donc Mad City, qui est une espèce de ville parallèle qui existe parallèlement, comme son nom l'indique, à notre univers. Et comme ce sont des éveillés, ils développent des pouvoirs surhumains, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un certain intérêt à devenir éveillé. L'autre versant de cette transformation, c'est qu'ils commencent à être traqués par des choses qui s'appellent les cauchemars, qui sont donc les méchants du jeu, et qui cherchent à soit les détruire, soit en faire leurs serviteurs. Alors, côté système, au niveau de la création de perso, en fait, chaque personnage est défini par 5 questions auxquelles les joueurs répondent pendant la création de personnage. La première, c'est « Qu'est-ce qui te tient éveillé ?» Donc ça permet de déterminer à la fois le passé du personnage, ses soucis plus ou moins récents, et donc pourquoi est-ce qu'il ne dort pas, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est les joueurs qui choisissent. Dans les exemples du livre, il y a des choses assez... mineures, comme le stress du quotidien, une infidélité conjugale, et puis des choses peut-être plus originales, comme des ennuis avec la mafia, ou des choses comme ça, c'est vraiment laissé totalement à l'appréciation du joueur.
Avoir peur des clowns.
Avoir peur des clowns, tout à fait. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il vient de t'arriver ? C'est en fait un moyen pour le joueur de définir ce qui va être sa première scène dans la partie. Ça peut être l'événement en question, ça peut être ses conséquences, quelques minutes, quelques jours plus tard. Encore une fois, l'exemple qu'il y a dans le livre, c'est un père dont la fille a disparu, en fait, tout simplement. Elle était dans son lit, et à un moment, il a une intuition, et il va voir dans sa chambre, et sa fille a disparu. Et là, le MJ lui dit, bon, soit on joue cette scène-là, soit, si tu veux, on joue quelques jours plus tard. Voilà, t'as commencé à te mettre sur sa piste, etc. La troisième et quatrième question sont liées. La troisième question, c'est qui est-il en surface ? Et la quatrième question, c'est qu'y a-t-il en profondeur ? Donc, qu'y a-t-il en surface ? C'est ce que les PNJ et les autres PJ pensent du personnage. Et qu'y a-t-il en profondeur ? C'est sa nature réelle, ainsi que ses secrets éventuels. Encore une fois, ça peut être des choses tout à fait mineures, du genre « j'ai l'air d'un mec super sympa, mais en fait, je suis un enfoiré ».
Okay.
Ou « je suis très timide, mais en fait, je bosse pour la mafia ».
D'accord.
Et enfin, la dernière question, c'est quel est ton chemin ou ton cheminement ? C'est une façon de déterminer quels sont les buts du personnage, ce qu'il compte faire pour y arriver. Donc c'est aussi une façon pour le MJ de voir à peu près où est-ce qu'il va emmener les choses. Et toutes ces questions donc, servent bien évidemment au MJ pour construire ses scénarios. C'est quelque chose sur lequel le bouquin insiste pas mal, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Les personnages sont définis par trois caractéristiques. La discipline, qui regroupe les capacités de base. La folie, qui permet d'utiliser donc les fameux pouvoirs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais bien sûr qui n'est pas sans danger, et la fatigue. Un jet de dés se fait en deux temps, alors c'est avec des D6. Le joueur jette un nombre de D6 égal à sa discipline, qui est 3 de base, plus, s'il le souhaite, c'est pas du tout obligé, un ou plusieurs dés de fatigue et ou de folie, sachant que ces deux scores sont de 0 à la base. Tu lances les D6, tous les résultats de 1, 2 ou 3 sont des succès.
Okay.
Et tu les compares au jet de dés du MJ, sachant que le MJ il lance entre 2 et 10 dés selon la puissance de l'opposition en face.
D'accord.
Donc ça c'est le premier temps, c'est comparer, ça c'est un truc assez classique, tu compares les succès. Sauf qu'après il y a un autre système qui s'appelle la domination. C'est tu regardes en fait quel type de dés a le plus grand score. Et là c'est assez intéressant puisque selon le type de caractéristiques qui dominent, il se passe des effets plus ou moins variés en jeu. Alors, si c'est la discipline qui domine, là, il n'y a pas de souci, le personnage garde le contrôle lui-même, tout va bien. Si la fatigue domine, le score de fatigue augmente de 1, et donc, à chaque prochain jet, ce score est obligatoirement ajouté au jet. Donc, en gros, plus ça va, plus potentiellement tu jettes 2 dés de fatigue, sachant que quand le personnage dépasse 6 points de fatigue, donc quand il arrive à 7, il s'endort. Et dans le jeu, s'endormir, bah, comme le titre du jeu l'indique, c'est pas cool. Parce que quand tu t'endors, bon, tu fais un reboot de tes scores, notamment de fatigue et tout, donc ça c'est bien.
Oui.
Ce qui est moins bien, c'est que c'est le moment en fait où tous les cauchemars des alentours, en fait ça fonctionne un peu comme un phare. Tu t'endors, d'un seul coup tu t'allumes, et là tous les cauchemars vont essayer de te bouffer la gueule, pendant que tes amis, qui espérons-le sont eux éveillés, vont essayer de pas laisser ton corps devenir la proie des choses sales. donc ça c'est quand la fatigue domine.
D'accord. En fait, quand tu t'endors, tu quittes cette espèce de monde parallèle.
C'est une bonne question. Non, a priori, tu t'endors. C'est pas en fait un monde où tu vas quand tu dors. C'est vraiment en fait le fait d'être éveillé fait que tu as accès à ce monde par des passages qu'avant tu ne voyais pas.
D'accord.
Et depuis que tu n'arrives plus à dormir, tu te rends compte que bah, tiens, là il y a une porte rouge brillant que tu n'avais jamais vue avant. Tiens, cette plaque d'égout, quand tu regardes à travers, tu te rends compte qu'il y a des trucs intéressants. Voilà. Et donc non, quand tu t'endors, tu restes dans Mad City.
D'accord.
Donc okay. Potentiellement, voilà, tu peux toujours te faire attraper.
Ok, d'accord, très bien. Mais alors, ça signifie qu'on peut quand même revenir au monde classique.
Ah oui, tu peux. Ouais, j'ai peut-être pas été clair là-dessus, mais voilà. En fait, l'intérêt, c'est a priori, tu fais des allers-retours entre le monde normal et le monde de Mad City, sachant que après, c'est le boulot du MJ de trouver des raisons. Bah, par exemple, dans le livre, avec le type qui s'est fait, dont la fille a disparu, évidemment, elle s'est fait enlever par un cauchemar, et donc il va devoir aller. Dans les endroits les plus dangereux de Mad City pour la récupérer. Mais
évidemment.
Rien ne l'empêche de temps en temps de... Et d'ailleurs, le bouquin dit, bah, vous pouvez tout à fait alterner les scènes où les joueurs se battent contre les trucs fantastiques, etc. Et puis les scènes où, un peu plus terre à terre, qui peuvent aussi mettre en jeu des choses intéressantes à partir du moment où le personnage dort plus. Donc, comment il fait pour garder son boulot, comment il fait pour entretenir des relations sociales, etc. Il y a aussi ce côté-là de dérive vers une espèce de folie, de cauchemar éveillé finalement.
D'accord.
Alors justement, quand c'est la folie qui domine, sur la fiche de perso, en fait, tu as deux types de réactions, qui est soit fuir, soit combattre la menace qui te fait face.
Oui.
Sachant qu'au moment de la création, tu détermines en fait le nombre de réactions, et elles sont en nombre limité. Est-ce que tu vas être plutôt quelqu'un qui combat, qui s'enfuit face à la menace, etc. Et quand tu as cocher toutes tes réactions possibles. Disons que par exemple, tu as choisi fuir deux fois et combattre une fois, t'en as plus sous les mains. Tu pètes les plombs. C'est-à-dire que ton score de folie permanente augmente de 1 et ta discipline réduit de 1 également. Et à 0 discipline, le joueur devient un cauchemar. Enfin, le personnage devient un cauchemar.
Ah, d'accord.
Une petite question, parce que tu as parlé de... On commence avec 3 en discipline et 0 dans les deux autres.
Tout à fait.
Tu as parlé d'un cas où quand la folie ou la tension, la, pardon,
la fatigue
domine.
Ouais.
Mais comment on fait, sachant qu'on part à 3-0-0, pour augmenter dans l'un ou dans l'autre, indépendamment de ces jeux quoi, voilà.
Parce que en fait, quand tu veux utiliser des pouvoirs... donc je compte en partie, mais je peux parler.
Non, ignore ma question. Alors,
non, mais il n'y a pas de
souci. Tu l'aborderas après, c'est pas gênant.
Ok. Donc juste pour finir avec ces histoires de domination, le MJ bien sûr lance aussi les dés. Donc lui, son score est appelé, enfin il lance des dés qui sont appelés des dés de douleur, donc pain en anglais. Et quand c'est la douleur qui domine, le MJ peut, alors il y a un certain nombre d'effets que je vais pas détailler, mais en gros il peut forcer le personnage à devenir plus fatigué, plus fou, etc. Et surtout il gagne un jeton de désespoir, que l'action réussisse ou non. Parce qu'il y a donc aussi un système de jetons dans le jeu qui est vraiment très très simple. Les jetons de désespoir permettent en fait au MJ de retirer ou d'ajouter un 6 à n'importe quel jet de dés. C'est-à-dire que finalement il choisit quelle va être, plus ou moins, quelle va être la caractéristique qui va dominer le jet. Ça permet d'avoir une influence là-dessus. Et chaque jeton de désespoir qu'il dépense engendre un jeton d'espoir. Et ça, c'est des jetons qui servent aux joueurs pour réduire leur score de fatigue ou de folie. Et donc les pouvoirs... Je ne vais pas rentrer dans les détails voilà, pour ne pas faire trop complexe, mais en gros, tu as des pouvoirs mineurs et des pouvoirs majeurs et, qui peuvent être utilisés, qui sont liés soit à ta caractéristique de fatigue, soit à ta caractéristique de folie. Dans les deux cas, pour les utiliser, il faut forcément jeter les dés d'un ou de l'autre. Donc le système, je trouve, est assez intéressant, peut-être complexe à lecture, mais je pense que ça tourne pas mal en jeu et ça pousse en fait les joueurs à constamment... composer avec le danger qui les guette, de devenir fou ou de s'endormir, et la puissance que leur permet un petit trempage d'orteil dans cette direction. En gros, l'idée, c'est si tu utilises que tes dés de discipline, bah, tu vas pas pouvoir faire grand chose si tu lances 3 dés face à un mec qui en a 8. Donc, il va être obligé de rajouter des choses, et malheureusement, une fois que t'as le doigt dans l'engrenage, ça devient difficile de, voilà, de t'en tirer. Alors, le seul bémol que j'ai par rapport au système de jeu, c'est que le bouquin s'ouvre. Avec une scène de jeu, vous savez, le truc classique où, où vous voyez un dialogue entre le MJ et les joueurs, etc. Le problème, c'est que c'est rempli, cette description-là est remplie de termes complètement abscons quand on a pas lu le jeu. Je me demande vraiment pourquoi ils l'ont mis en premier, donc moi j'ai tout simplement sauté et je suis revenu après. Et ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là, parce que là tu comprends bien tous les mécanismes et tout.
Ils auraient pu le faire en conclusion ou en annexe.
Bah, d'autant plus qu'à la fin du système de jeu, t'as un résumé d'une page des règles qui est assez clair, donc c'était un peu bizarre comme mise en page.
D'accord.
Alors là où je suis plus mitigé, c'est au niveau du background, puisqu'il y a toute une présentation de Mad City avec ses quartiers, ses dangers, les PNJ principaux qui rôdent, etc. Mais voilà, j'ai pas été super convaincu par tout ça. Alors pour prendre un exemple assez concret, un des quartiers de la ville est le District 13, où tout fonctionne selon une administration super rigide, un espèce de truc à la Brésil en plus glauque. Un des méchants de ce quartier-là est l'officier Toc. Il est décrit comme un homme qui a un cadran de montre pour visage, accompagné de policiers qui ressemblent à des officiers anglais avec une clé à molette dans le dos, vous savez, les clés des petits soldats et tout. Enfin, en fait, l'ensemble de l'univers, ce serait parfait si les joueurs incarnaient des enfants. Mais, en tout cas, j'ai pas vu cette mention-là dans le livre. A priori, on incarne plus des adultes. Et pour moi, ça colle pas vraiment parce que ça fait vraiment univers qui appelle à des peurs enfantines, etc. Ouais. Alors si les joueurs sont dans le trip, ça peut bien marcher, mais bon, à la lecture, tu te dis ouais, bon, en plus c'est pas super original, bon. À mon avis, c'est plus intéressant, et si je devais jouer à ce jeu, je n'y ai pas joué, ce serait plus intéressant de faire un background qui est lié à la création de perso. C'est-à-dire, avec les 5 questions des personnages, tu vois ce qui peut... À la limite, on rajoute une question du style « qu'est-ce qui te fait peur ?» genre les clowns. Et là, tu construis un univers en rapport. Ça me semble plus intéressant, vu le thème du jeu, que de plaquer comme ça des trucs un petit peu artificiellement. Quoi.
Et alors, les cauchemars dont tu parles, ils ont une forme définie?
Oui, bah, par exemple, l'officier Toc, c'est un cauchemar, en fait.
D'accord.
Voilà,
okay.
C'est les PNJ principaux, les méchants principaux du jeu, voilà.
D'accord. Ah, et donc dans ceux qui sont proposés là pour le coup dans Mad City, ils sont tous enfantins ou liés
à... Écoute, pas forcément, mais il y a pas des trucs super. Enfin voilà, moi j'ai pas été super convaincu. Alors par exemple, il y a un quartier qui est la jungle des toits de la ville. Et dessus, donc en anglais, c'est des cauchemars qui s'appellent les Paper Boys. Et en gros, ce sont des... Je te lis rapidement. Hein, donc les Paper Boys ressemblent à l'idée que se ferait un artiste dément d'un pliage en origami. Donc qui ressemble à des espèces de journaux froissés et empilés les uns sur les autres. Voilà, ils se baladent toujours en bande. L'idée, c'est qu'ils cherchent pas forcément le combat, mais ils cherchent à publier des rumeurs qui ensuite deviennent vraies. Voilà. C'est des idées qui sont pas mal, si tu veux. Mais mm-hmm. Par exemple, le côté, genre, vous êtes poursuivi par des mecs faits de papier journaux. J'ai du mal à voir comment ça peut être flippant. Alors après, c'est peut-être juste moi, hein, c'est pas... Voilà. Mais cela
ouais,
dit...
Je pense que bien amené...
Après, voilà, je te dis à la lecture.
Il y a aussi l'effet d'étrangeté, mais en même temps, dans une ville qui s'appelle Mad City.
Après, ouais, c'est ça, oui.
Tu trouves que ça manque de sexe et de violence, quoi.
Non, pas forcément. Je trouve que ça manque... Je sais pas, je trouve que en fait je m'interroge sur l'intérêt d'avoir proposé un background aussi détaillé, surtout que après il y a une section conseil du MJ qui est vraiment bien foutue pour le coup, qui t'explique comment faire pour créer un groupe de personnages cohérents, alors qu'à la base les mecs Insomniac et tout, c'est plutôt des solitaires.
À part un groupe de parole,
voilà,
éventuellement.
Comment justifier le fait qu'ils soient ensemble, il y a des bonnes idées par rapport à ça. Il y a quelques options, enfin il y a quelques trucs sur comment créer vos propres cauchemars, etc. Et je trouve que en fait c'est cette section-là que j'aurais aimé voir plus détaillée,
oui.
Genre voilà comment créer votre propre Mad City, l'adapter aux envies de vos joueurs, etc. Mm-hmm. Là c'est finalement assez assez classique quoi comme truc. Il faut aussi savoir que le jeu, en tout cas selon Frezix, se considère surtout comme one shot, comme partie en one shot. Il y a quelques options pour jouer sur le long terme. Avec un système d'XP qui est assez basique, mais qui est assez convaincant sur les bases de situations ou d'événements qui ont marqué les joueurs. Bon, ça a l'air pas mal. À lecture, c'est bien, en tout cas. Il y a aussi une section sur quelles sont les options au long terme des personnages. Ils peuvent devenir un cauchemar, ils peuvent essayer de trouver un sens à ce qui leur arrive, ils peuvent se faire assimiler comme un des habitants de Mad City. Enfin, il y a plusieurs options comme ça qui sont détaillées.
Uh-huh.
Et qui sont aussi assez intéressantes. En fait, j'aurais préféré avoir cette section-là un peu plus touffue et peut-être moins de background qui m'a donc...
Qui colle pas à ce que tu aurais envie d'utiliser. En
ouais,
fait,
ouais.
En fait des deux options de jeu qui sont proposées, donc le jeu en one-shot et le jeu à plus long terme, ce qui paraît bizarre, c'est que, en effet, c'est raccord que ce soit du one shot parce qu'il propose un univers tout clé en main. Comme ça, mm-hmm. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Mais pour alimenter la deuxième partie, ça aurait été intéressant d'avoir un système de création de Mad City,
voilà.
Entre guillemets, ce qui aura permis d'alimenter l'autre côté. Donc,
ouais.
Justement, comme tu disais, ouais. Avec en partant des créations, des personnages qui composent le groupe, et ça aurait pu permettre de construire. Ça aurait été bien d'avoir les deux axes, vu que c'est deux axes de jeu qui sont proposés.
Ouais, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et éventuellement, au-delà de ma remarque tout à l'heure sur le sexe et la violence, j'imagine que si on personnalise davantage les problématiques, ça va aussi gagner en profondeur et peut-être.
Plus près du micro.
Je vais tâcher d'être encore plus près du micro. Ah oui, il faut vraiment faire gamour à ce truc.
Oui, c'est ça, c'est un peu
si
le
parlais de sexe.
Ah, c'est le côté sexe, on
voilà.
Fera la violence après.
Donc, je vais oui. Essayer de la refaire mieux. Donc, au-delà, effectivement, de ma remarque de tout à l'heure sur le sexe et la violence, effectivement, je comprends que si les problématiques propres aux personnages étaient davantage approfondies, ça permettrait effectivement de faire des choses également plus adultes.
Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que, du coup, tu te poses même un peu la question sur, quel intérêt il y a à créer des personnages qui sont assez détaillés, qui ont un but, qui ont une raison pour l'entrée à Mad City, etc. Si derrière, en fait, finalement, tu leur crées des méchants de livres pour enfants ou pour adolescents, ce qui est pas un mal en soi, mais pour moi il y a une espèce de décalage.
Est-ce que ce
entre,
serait pas une volonté d'alléger un peu par background, background
et puis
d'être,
le côté voilà, il faut vraiment que vous sachiez ce que vos joueurs ce que les personnages veulent sur le long terme, quels sont leurs problèmes personnels, etc. Les deux sont, enfin je sais pas, encore une fois c'est à la lecture hein, puisque je l'ai pas testé. Ouais, peut-être, je sais pas. Parce que si tu veux, à la lecture, le background n'est pas, pas vraiment léger non plus, quoi. C'est quand même des. Enfin, tu vois, il te dit pas, genre, voilà, c'est des cauchemars, mais finalement, ça fait pas très peur, quoi. J'ai l'impression que son intention derrière était quand même de créer un univers un peu, comment dire, pas forcément effrayant, mais dérangeant, un petit peu tordu, comme ça, quoi. Mais après, je pense que comme boîte à outils, par exemple, ça marche très bien. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques options dans le bouquin qui permettent cette approche-là et qui, à mon avis, peut bien marcher. Alors,
il faudrait conclure.
Oui, oui, je conclue. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est donc disponible en français au prix de 38 euros. Quand même, sachant que pour ce prix, vous avez le bouquin de base et un supplément qui s'appelle Don't Lose Your Mind, qui est consacré à la folie, comme son nom l'indique. Alors, je l'ai pas lu, mais a priori, il y a à la fois, si j'en crois le grog, des règles et puis des petites choses moins techniques.
Oui, en fait, moi, je l'ai. En fait, j'avais passé le bouquin à Cyril.
Ouais.
Et je l'avais.
C'est pour
un
ça qu'il n'est pas là ce soir.
Il a perdu l'esprit.
Il a perdu l'esprit probablement. En fait, dans ce bouquin, il y a plein de créatures avec, si j'ai bien compris, où tu rentres un peu en osmose avec elles et où tu peux appeler leurs pouvoirs ou des trucs comme ça.
D'accord.
Et les créatures qui sont proposées sont vraiment sympas et pour le coup beaucoup plus horrifiques.
Ah oui. Ouais. D'accord. Ah bon, écoute, du coup, ça vaudrait le coup de savoir plus.
Mais je te passerai le bouquin.
Ouais, bah, je ferai peut-être un retour rapide là-dessus la prochaine fois.
Ouais.
Donc, je conclue avec deux choses. La première, c'est qu'il existe un scénario gratuit qui s'appelle The Bad Man, qui est a priori le scénar que Freddy X faisait jouer en convention. Je sais qu'il est disponible sur Drive-Thru et je crois qu'il est disponible sur RapidJDR.
Okay.
Gratuitement donc. Et la deuxième chose, c'est que la gamme par contre est a priori fermée, puisque en anglais le jeu date de 2009 2010, un truc comme ça, donc je crois pas que autre chose soit prévue dans l'avenir.
C'est un pack one shot,
c'est ça,
du Dead on Arrival.
Tout à fait.
D'accord, merci Com.
Merci.
Et pour une fois, Mickaël va faire la critique d'un jeu.
Oui, pour une fois, je ne vais pas faire un retour d'expérience. Alors, il se trouve que Yannick n'est pas là, donc il fallait bien que quelqu'un aussi vienne épauler Com pour faire une critique. Donc, j'en ai profité. J'avais quelques boîtes d'initiation qui traînaient sur mon bureau, et une en particulier qu'il fallait que je décortique, celle de Star Wars Edge of Empire. Donc, c'est le jeu de rôle, le premier jeu de rôle Star Wars issu de la maison Fantasy Flight. C'est une bonne grosse boîte pleine de vide, soyons honnêtes. Quand vous la recevez, c'est une boîte qui est maintenue en forme par du carton à l'intérieur, et quand vous l'ouvrez, c'est un peu la déception au début, parce que vous arrivez, vous faites mais il y a quoi dedans. Alors au final, il y a
du carton.
Voilà, il y a pas mal de matos néanmoins, mais la boîte est disproportionnée par rapport à ce qu'il y a dedans. C'est juste ça. Donc voilà, je vais pour venir sur la présentation, c'est une bonne grosse boîte, donc pleine de vide, avec un livret d'introduction au jeu de rôle qui fait 4 pages, avec un livret d'aventure qui fait 32 pages, un livret de règles qui en fait 48. Un poster avec des plans, évidemment, un vaisseau de transport léger, vous pensez bien, une cantina, une tour de contrôle d'astroport.
Tu montres.
Bah vas-y, je t'en prie.
Montre
voilà, allez regarder ce qu'il y a exactement.
Non, parce que
ils vont potasser pendant que je continue.
Parce que c'est vrai que effectivement la boîte a l'air vide, mais en fait les éléments qui sont dedans ont l'air plutôt sympas.
C'est plutôt sympa, ouais. Donc vous avez aussi des livrets de personnages, qu'en fait il y a les pré-tirés qui se présentent sous forme de livrets de 8 pages chacun. Donc vous avez 4 pré-tirés dedans, vous avez un Wookiee, un mercenaire Wookiee, un contrebandier humain, un droïde un coloniste comme ils disent en anglais. Et vous avez aussi un chasseur de primes Twi'lek, quoi, une chasseuse de primes d'ailleurs. Et en prime, vous avez en plus derrière ça, téléchargeable sur le net, sur le site de Fantasy Flight, une mini campagne gratuite Et deux prétirés supplémentaires qui sont en l'occurrence, attendez que je retrouve ça, je ne me rappelle plus, il y a un technicien de mémoire humain et il y a une humaine qui, elle, est exploratrice, si ma mémoire est bonne. Vous avez des tokens et vous avez un set de dés. Voilà, tout ça c'est avec du papier glacé couleur. Aucune photo du film, que des illustrations qui s'échelonnent entre le moyen et le plutôt très bon, je trouve. Donc c'est assez réussi. Sachant que la boîte fait moins de 40 euros, sachant voilà, que vu la qualité du papier et des illustrations, je pense que ça compense assez largement le manque d'originalité de la mise en page, personnellement, en tout cas c'est ce que je trouve. Et la taille, somme toute, très réduite du texte, je veux dire, c'est écrit tout petit. Néanmoins, je pense qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus et peut-être grossir la pagination, revoir la maquette en fonction. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté, on va dire, de la forme. Ce que j'aime bien je vais venir maintenant plutôt au côté approche pédagogique de la boîte. Bon, c'est une boîte d'initiation, donc c'est censé s'adresser aux jeunes. Donc cette boîte d'initiation, elle veut être l'équivalent grosso modo de la boîte d'initiation de donjon, la vieille boîte rouge. Elle contient donc tout naturellement le matériel nécessaire aux meneurs de jeu et aux joueurs pour se lancer dans leur première aventure. Donc il y a des règles, des prétirés, une aventure, des plans, des dés, des jetons. Exception faite d'un écran, il n'y a pas d'écran. Donc fidèle à la tradition, l'introduction se fait par le livret d'aventure. Évidemment, comme dans la boîte rouge de donge, vous commencez par l'aventure qui a été construite de façon à introduire les règles étape par étape. Donc évidemment, il va falloir idéalement la jouer dans l'ordre dans lequel elle est inscrite. Il y a 7 rencontres au total dedans. Il faut éviter d'en sauter une, sinon vous allez rater un point de règle. Bon, c'est là où je dis que c'est volontairement dirigiste, parce que l'idée c'est de faire vraiment de l'introduction, sachant que dans le petit livret de 4 pages qui est livré, ils expliquent ce que c'est qu'un jeu de rôle, évidemment. Donc le texte est émaillé, pardon, vas-y.
Ils ont besoin de 4 pages pour écrire pour.
Ils expliquent d'autres choses, mais on est d'accord. Le texte est émaillé de 3 types d'encadrés de couleurs différentes. Donc le texte à lire aux joueurs, évidemment, les explications de règles et des encadrés un petit peu fourre-tout dans lesquels on trouve des règles complémentaires, des caractéristiques de PNJ, des notes sur l'univers. Et tout ça répond un peu à toutes les questions que pourraient se poser le meneur de jeu et les joueurs au cours de cette aventure. La seule chose que devra improviser le meneur en tant que tel, ce sont les transitions entre chacune des 7 rencontres et bien évidemment les dialogues de certains PNJ. Si vous sortez des textes à lire, et il va falloir, parce que notamment pendant une phase de négociation, il va falloir. Donc grosso modo pour moi, l'approche pédagogique, le contrat est plutôt bien rempli. Même si c'est dirigiste, c'est normal, et qu'il faut donc du coup les jouer dans l'ordre. Oui.
Alors juste peut-être t'allais en parler après, mais il me semble que un des points originaux de ce jeu aussi, c'est que tu n'incarnes pas de Jedi, je crois.
Ah oui, oui, j'y viendrai. On va y venir
quoi
après.
Il n'y a pas de Jedi.
En fait, ça se passe le background, grosso modo, ça se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Aux confins de la galaxie, donc dans une zone où l'Empire n'est pas dominant, sa présence il est présent, mais il n'est pas dominant, donc son emprise tyrannique n'est pas aussi vivante. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel on joue tout en niveau de gris.
Sa présence on va plutôt, c'est, est présente.
C'est oui, excuse-moi, oui, bien vu. C'est vraiment dans l'ambiance de Han Solo. On est dans les mercenaires, on est dans les débrouillards, les gens qui sont dans les combines. Évidemment, vous pensez bien, ça se passe sur Tatooine, le scénario à l'aventure de l'introduction, ça paraît un peu logique aussi. Donc voilà. Donc cette aventure se passe sur Tatooine, pour revenir sur l'aventure, ça se passe plus précisément dans une petite cité baptisée Mos Shuta. L'avantage de la chose, c'est que sur les prétirés, on vous explique les raisons pour lesquelles les prétirés sont forment une équipe. Ils sont tous dans la même merde, en fait, parce qu'ils sont mis à dos le chef local, qui est un Hutt, évidemment, Timo the Hutt, qui a lancé ses sbires à la poursuite des joueurs au début de l'aventure. Et donc, ils vont devoir vite trouver le moyen de quitter la ville. Et au cours de cette aventure, ils auront aussi l'occasion du coup de monter de niveau une fois. C'est pour la raison pour laquelle vous avez un livret de 8 pages et que vous avez deux versions de la feuille de personnage, la version de base et la version avancée. Donc évidemment, vous pensez bien, il y a un plan de vaisseau de transport léger corélien. On se demande bien comment ils vont pouvoir quitter les lieux. Je me demande. Donc au niveau des règles.
Ça pour le coup, c'est chouette d'avoir ça. Le poster du vaisseau en couleur et tout.
Oh, il est beau.
Tu peux poser tes jetons dessus.
Sachant que justement, venons aux règles parce que ça, tu vas voir qu'il n'y a pas de case. Donc C'est donc ouais, donc les règles,
tu peux pas
quelles
simuler
sont-elles?
les combats à l'intérieur de vaisseaux.
Tu peux tout à fait, mais tu vas pas le faire avec des cases comme tu vas le faire dans certains jeux qu'on comme
ah, non,
donjons
non, non,
où tu utilises des cases.
Non, c'est purement à titre de représentation, j'entends.
Tout à fait, on est bien d'accord. Il y a d'ailleurs des jetons qui représentent tes personnages et les PNJ, les méchants que vous allez rencontrer. Si on sait jamais, ils croisaient des Stormtroopers ou des Gamoréens, on sait jamais. Ça peut arriver ces trucs-là, on se demande bien. Donc la mécanique de Star Wars Edge of Empire, elle s'appuie sur celle de Warhammer 3ème édition, qui a été pour le coup assez remaniée, et c'est plutôt une bonne chose, parce que la mécanique complète de Warhammer 3 pour faire l'initiation, ouais, ça me paraît un peu tendu quand même. Comme dans tout jeu de rôle, les personnages sont définis par des caractéristiques et des compétences qui permettent de déterminer quelle quantité de dés et quel dé précisément ils vont lancer le moment venu, auquel le meneur de jeu ajoutera des dés de difficulté, qui sont des dés un peu spécifiques d'une autre couleur, qui rajouteront à leur pool de dés. Donc les joueurs, à chaque fois qu'ils doivent faire une action, ils réunissent un pool de dés, en fonction de leurs caractéristiques et leurs compétences. Le MJ rajoute un ou plusieurs dés de difficulté, il lance tout ça, et à partir de là, il y a plein de symboles. En fait, il y a 7 types de dés différents, et chacun d'une couleur différente, donc, sur lesquels figurent toutes sortes de symboles permettant de déterminer le résultat des actions. Donc pour savoir, déjà, de base, si une action réussit ou échoue, vous avez à faire le compte de 2 symboles. Si vous avez plus d'un symbole que de l'autre, au hasard, si vous avez plus de symboles réussite que de symboles échec, vous avez réussi votre action. Et après, tous les autres symboles qui sont autour vont un petit peu typer l'action. Ce qui va faire que, comme dans d'autres jeux, vous pouvez réussir et il vous arrive une merde, ou vous pouvez échouer et il vous arrive quand même un petit truc cool. C'est le principe de base de Warhammer 3. Donc ça, ils l'ont gardé et CD fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci. Donc pour donner, donc ça donne vraiment de la profondeur à ces fameux échecs ou réussites, ces symboles. Donc ça va, voilà, vous allez avoir une complication, un bonus supplémentaire, bref, en fonction.
Oui. D'accord, en fait, ce sont des compléments qui sont accrochés aux dés, en fait.
C'est ça, en fait, les dés sont un support de narration dans Warhammer 3 et dans Star Wars Edge of Empire. Indépendamment de la réussite ou de l'échec, les autres dés vont vous permettre de donner un peu de la profondeur. Donc, selon le cas, bon, pour un jeu d'initiation, forcément, ça va être le MJ qui va plutôt se coller
à l'interprétation
des dés. Alors, on peut faire des interprétations assez basiques, mais on peut vraiment aller monter. Ou si vous avez des joueurs qui veulent juste, qui sont des routards ou des gens qui sont à l'aise et qui veulent proposer des interprétations de ces dés, vas-y, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Donc pour ce qui est du combat, évidemment le combat est mesuré en tours, hein, vous pensez bien, au cours desquels les joueurs, les personnages et leurs adversaires agissent en fonction d'une valeur d'initiative, alors qui s'appelle là initiative slot. Pourquoi ? Parce que, pas slot, mais slot. Non, j'ai eu peur que Com percute, donc ma prononciation n'étant pas top.
Oui, d'ailleurs tu pourrais préciser que c'est Age of Empire.
Merci.
Donc EDGE et oui. Pas Age comme le oui. Fameux jeu vidéo.
Voilà. Non mais tu vois, je me trompe pas complètement là, Cobal. Tu as raison. Fouette-moi Com, j'adore.
C'est mon côté un peu rigoureux.
J'ai vu ses lèvres frémir lorsque tu l'as dit tout à l'heure.
Je me semblais bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque valeur d'initiative, chaque valeur d'initiative porte le nom d'une faction, PJ ou PNJ. Et à partir du moment où arrive cette fameuse valeur d'initiative, les joueurs choisissent qui d'entre eux va agir. Donc, ce qui change quand même la donne, parce que là où vous aviez une initiative pour chacun des personnages, là, c'est pour les personnages, vous avez plusieurs slots d'initiative. Et vous choisissez qui va, quoi, qui s'y colle. Et ça peut être pratique tactiquement, vous pensez bien. Donc au cours de son tour de jeu, un personnage peut accomplir une action et une manœuvre. Donc les actions, c'est l'attaque, le jet de compétences, une manœuvre supplémentaire éventuellement. Et la manœuvre, ça va être un déplacement, la récupération d'un objet, se soigner, ouvrir ou fermer une porte, se mettre à couvert, utiliser un objet, bref.
Recharger une arme.
Exactement. Comme son grand frère Warhammer 3, Star Wars Edge, merci, of Empire, n'utilise donc pas de case pour suivre le combat, mais un système de portée qui se base sur portée extrême, portée longue portée, portée moyenne et portée courte, complété par la condition spéciale engagée. Donc en fait, on utilise des marqueurs, vous allez utiliser des marqueurs par exemple entre deux joueurs, s'ils sont à deux rangs de portée, vous mettez deux petits marqueurs entre eux, ça vous permet de situer les choses. Donc on peut utiliser des cartes, mais au final, on n'est même pas obligé si on veut, c'est de la description, donc voilà. Et le marqueur engagé, c'est quand vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, vous êtes à portée pour lui donner une attaque vraiment physique. Lorsqu'une attaque touche, on additionne les succès que vous avez obtenus à la valeur de dégâts, et puis on soustrait la valeur d'encaissement de la victime, et voilà, ça fait des dégâts. Tout simplement, on enlève ça en point de blessure, sachant qu'il y a aussi des blessures critiques. Bref. Là, je vous fais la version courte, sachant que la version est un petit peu plus complexe que ça, mais elle est vraiment plus simple que celle de Warhammer 3, soyons
C'est-à-dire que là, c'est la version pour débutants pour Star Wars, mais qui, semble-t-il, a quand même une certaine complexité.
Je dirais que ça n'a pas plus de complexité avec la boîte d'initiation de Pathfinder. Pour moi, la 3.5, la 3.0, quoi que ce soit, ce n'est pas forcément le jeu non plus idéal pour l'initiation.
C'est sûr.
Y a quand même beaucoup de mécaniques. Pour moi, il faudrait une mécanique beaucoup plus simple. Après, je pense qu'on est peut-être trop vieux pour juger ce que les enfants sont capables de digérer. Au final, je pense qu'ils digèrent à peu près tout.
Mais moi, je suis pas un enfant, mais c'est pas mon type de système, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est toujours la question que je me pose. Bon, après, ça mériterait un débat à part. Mais tu vois, c'est des jeux qui s'appellent jeux d'initiation. Mais quand tu dis, bon, il y a des spéciaux, des machins, des actions, enfin. Finalement, c'est une mécanique qui se rapproche, voire même qui est celle d'un jeu de rôle normal, entre guillemets, enfin, pas d'initiation.
Complètement, mais je pense que si on regarde rétrospectivement ce qui se passait jadis, on n'était pas aidé, c'était en anglais, il fallait traduire à notre façon, fallait se débrouiller pour comprendre, et les règles étaient beaucoup plus bordélique. Là, je dirais que la structure d'explication des règles est très claire. Si vous prenez, je vais dire une bêtise, AD&D, je prends même pas AD&D, mais AD&D première édition, quand vous tapiez le Player's Handbook, essayez de comprendre, et surtout le guide du maître pour le meneur, vous ne retrouviez pas l'information. Le grand jeu, c'était de retrouver l'information dans le guide du maître. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est vraiment très structuré, très clair. Pour trouver l'information, on sait où on va. Et en plus, c'est présenté au fur et à mesure de l'aventure. Donc, ça introduit étape par étape. Donc, c'est plutôt bien.
Et puis, c'est vrai que, à partir du moment où ça t'initie au jeu de rôle en général, et que la plupart des jeux de rôle ont quand même des systèmes un peu dans ce style-là, avec plus ou moins de complexité, c'est bien de t'y préparer assez tôt, quoi.
Alors, il y a quelques petites choses que je vous épargne d'expliquer qui mettent du piment un peu dans la vie des héros. Et bah, y a l'utilisation des symboles, évidemment, davantage de triomphe, de menaces, de désespoir par rapport aux points de tension, les échecs et les réussites et les dégâts critiques. Bref, il y a tout un ensemble de petites choses qui se rajoutent. Ça sert à rien de pouvoir rentrer. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que ce qu'il n'y a pas par rapport à Warhammer 3, ça vous permettra de vous donner un ordre d'idée. Déjà, il n'y a pas de fiche de groupe avec des talents de groupe. Donc voilà, ça déjà, ça fait ça de moins à gérer. Tous les systèmes de posture défensive, agressive, tout ça, ça n'y est pas. Et heureusement, je dirais. Il y a plein de petites choses comme ça qui s'enlèvent. Il n'y a pas de cartes, surtout. Il n'y a pas les cartes. Dans Warhammer 3, vous aviez les cartes, chacun avec ses cartes, machin. Non, il n'y a rien de tout ça. Vous avez donc juste la fiche de perso, vous n'avez pas de fiche de groupe, vous n'avez pas de fiche de carrière, vous n'avez rien de tout ça. Donc c'est plutôt
légère. Alors je connais pas les règles, mais dans Warhammer 3, les cartes sont juste un support, ou alors elles ont une spécificité?
Alors tu peux utiliser le manuel, mais alors il faudra en avoir un chacun, parce que c'est des compétences, ça va être des talents, t'as des choses qui sont écrites qui vont te donner des bonus, et donc en fait t'as une espèce de fiche cartonnée qui est devant toi, qui représente ton personnage, et t'as plein de cartes qui s'accrochent à ta fiche,
tes talents, tes armes, tes machins,
tout ça s'accroche, et t'as une fiche de groupe pareil où là on accroche aussi des choses. Donc là ça y est pas du tout, tout est expliqué sur la feuille de personnage, vous avez tout sur votre feuille et vous avez rien d'autre.
Pour le coup, moi je trouve que les cartes ça enlève de la complexité, en fait.
Là les enlever, ça enlève de la complexité, parce qu'à la lecture simple de regarder, alors attends, et puis les choix tactiques, il y en avait beaucoup plus. Là, ça, je trouve que ça aide vraiment bien. Donc je pense que c'est une bonne chose. La critique que je faisais sur Warhammer 3, de dire pour le MJ, c'est un peu tempête sous un crâne, il vaut mieux avoir 3 voire 4 joueurs maximum, plutôt 3. Là, je pense que pour Star Wars, la problématique se pose absolument pas. Il y a 6 prêts tirés. Moi, je vois pas le problème de faire jouer 6 joueurs à Star Wars Edge of Empire, excuse-moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, pour revenir au background, je vous disais, c'est tout en niveau de gris, tout ça. Ça nous fait vraiment penser à Firefly.
Ce que j'avais lu effectivement sur le net. Les quelques personnes qui en faisaient des retours me disaient c'est génial pour faire du Firefly. Sans doute mieux d'ailleurs que le jeu qui va sortir.
On verra ce que Margaret Weiss Production va nous faire, mais en effet, c'est vraiment du clé en main pour faire du Firefly.
Du coup, ça m'intéresse. Et je sais pas s'il est prévu.
Il est en cours cours de traduction. Je crois qu'il va sortir d'ici à au dernier trimestre ou plus tard. Avant Noël, il est sorti. Ou Noël, quoi. Avec Edge, je sais que c'est en cours. Après, leur calendrier de publication est toujours compliqué. Les traductions sont souvent prêtes très longtemps en avance, mais ne sont pas publiées obligatoirement dans la foulée. Mais je sais que c'est dans les tuyaux et que, idéalement, je crois que ça doit sortir d'ici à novembre, décembre, je pense. Peut-être même avant, qui sait jamais. On sait jamais. Donc, pour moi, cette boîte d'initiation, ce beginner game, c'est vraiment une solution clé en main pour démarrer dans cette nouvelle itération ludique de l'univers de Lucas. Je pense que vraiment Fantasy Flight a eu la bonne idée de simplifier la mécanique de Warhammer 3, qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus facile à gérer au quotidien, donc autant pour le meneur, parce qu'il n'y a pas les cartes, il n'y a pas les marqueurs aussi pour lui, que pour les joueurs qui n'ont plus de cartes, qui n'ont plus de posture, qui n'ont plus de tout ça. Donc c'est vraiment plus simple, même si pour moi, ce qui fait la richesse avant tout de Warhammer 3 et de Star Wars Edge of Empires, c'est déjà les dés, qui pour moi se suffisent à eux-mêmes parce que c'est vraiment le support de narration. Donc ça, c'est très bien de l'avoir gardé, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas été la suite logique de Warhammer 3. Pour moi, je dirais qu'ils ont vraiment tout fait de ce côté-là pour simplifier la tâche du meneur débutant. Oui, je t'en prie.
Et sur le choix, justement, de faire quelque chose qui ne permette pas de copier les films de la saga comme les éditions précédentes étaient orientées.
C'est pas tellement surprenant, parce que d'abord, d'une part, ils vont faire un peu comme ils ont fait sur Warhammer 40 000. Ils vont faire plusieurs jeux de Star Wars, ça c'est le premier. Edge of Empire est le premier jeu, il va y en avoir d'autres, donc forcément il va y avoir d'autres axes qui vont nous être proposés.
Évidemment, suis-je ça.
Voilà, 40 000, il y avait Dark Heresy, on commençait avec le côté Inquisition, ensuite on a fait, voilà, on a évolué. Mmh. Donc ça va évoluer aussi. Donc je pense qu'il commence par l'extérieur, avec ce qui, j'imagine, doit être le jeu le plus quelque part adulte dans le traitement. Pourquoi j'imagine, je sais pas ce qu'ils ont prévu derrière, j'ai pas trop suivi l'actualité, donc je pourrais pas vous dire. Pour revenir à cette histoire de boîte d'initiation, je trouve que vraiment pour le meneur débutant, les choses sont très très bien faites pour se lancer, même si l'aventure est donc ultra classique et dirigiste, parce qu'il y a évidemment, les joueurs, en plus, dans ce qu'on nous fournit, il n'y a pas de règle de création de personnages, donc vous devez jouer les pré-tirés, sachant qu'il y en a deux supplémentaires sur le site web. Bon, ceci dit, ils sont complètement introduits, il y a des raisons pour lesquelles ils sont ensemble, donc c'est très bien. Voilà, donc à 30 € la boîte d'introduction, je pense que c'est plutôt une bonne alternative pour se faire une idée du jeu Star Wars Edge of Empires, qui est un livre de base après 448 pages, avec une vraie gamme.
Ah ouais.
Donc je pense que c'est vraiment le bon plan, parce que pour 30 €, d'abord, d'une part, le matos qui est à l'intérieur, vous pourrez vous en servir dans le jeu complet, vu qu'il y a notamment un set 2D.
Que la boîte est un peu vide, mais au moins c'est pas trop trop cher.
Non, c'est ça. C'est pour moi, c'est les prix d'appel qu'il y a sur la boîte de Pathfinder, sur ce qu'il y avait en DD4 quand ils ont fait la boîte rouge, la vraie, derrière. C'est des prix, voilà, c'est des bons prix. Donc je pense que c'est vraiment le bon plan pour essayer de se lancer soit avec des enfants, alors peut-être pas des enfants de 6 ans, hein, faut peut-être pas déconner, ou ramener vos vieux potes à la table qui jouent à Star Wars D6 et qui aimeraient bien jouer à quelque chose avec des mécaniques un petit peu différentes et avec un axe plus adulte, donc le côté niveau de gris, je pense que c'est bien. D'autant que voilà, Fantasy Flight propose du matériel gratuit, et notamment une mini-campagne de 48 pages, qui est téléchargeable, qui est donc dans la suite logique de toutes ces petites choses-là, c'est-à-dire une fois d'avoir fini l'aventure qui est proposée dans la boîte, vous avez une mini-campagne de 48 pages avec une vraie aventure qui s'appelle The Long Arm of the Hutt, et donc ces deux personnages pré-tirés supplémentaires que moi je pense qu'il faut télécharger tout de suite et proposer aux joueurs de prendre un des six.
Dès le départ.
Voilà, dès le départ, je pense que c'est plus simple, tout ça c'est gratuit, donc c'est bien. Le seul défaut, je dirais, donc il y a la boîte, cette boîte qui est souple et qui est renforcée par du carton, et qu'il faudrait quand même penser à acheter des dés supplémentaires, parce qu'un seul set de dés pour la table, ça va être compliqué. Alors certes, Fantasy Flight propose
à
une
42 euros la boîte.
Il propose une application qui coûte 4,99 $ pour Android ou iOS, qui vous permet de simuler sur votre smartphone vos jets de dés. Sinon, un set de dés, c'est 15 € quand même. Ah oui. Donc voilà. Oui, c'est 15 €.
Juste une question.
Je t'en prie.
Bah, en fait, là, tu dis, voilà, dans 30 € on peut faire de l'initiation, etc. Il y a quand même donc cette grosse campagne en plus, mais Puis tout à l'heure, par exemple, tu parles de pré-tirer. Est-ce qu'à un moment, on te donne la possibilité de créer tes propres personnages?
Non, il n'y a pas les règles.
De créer tes propres scénarios? Non. Donc, non, c'est vraiment.
On donne des conseils s'il y a des pistes pour pouvoir rajouter des choses en termes de création de personnages, mais tu gardes. Là, c'est dans l'idée de garder les pré-tirés. On donne des explications un petit peu sur l'expérience. Mais non, si tu veux passer à la vraie recette, ouais, il faut aller investir pour le coup 60 euros dans le livre de base de 448 pages couleurs. Donc le prix est pas colossal, je pense, ramené au...
Après,
c'est 448 pages.
Ouais.
Putain, ça fait un
après,
énorme
bouquin. C'est peut-être là que le prix de 30 euros est un peu... peut-être pas excessif, mais si tu veux, ça veut dire qu'en gros, tu fais l'aventure qu'il y a dans le bouquin et tout, puis tu le fais une fois, éventuellement deux fois, c'est deux groupes de joueurs, et voilà.
Non, non, je pense que rien qu'avec le scénar de base et la mini-campagne, t'as de quoi faire jouer, et t'as de quoi surtout... tes joueurs de voir s'ils ont vraiment envie de continuer.
Oui.
Et à ce moment-là, l'investissement après, il se rajoute. Donc la gamme, pour l'instant, t'as le livre de base qui fait 60 euros, donc 448 pages. Là, il y a les règles de création, il y a même des règles de force qui sont limite de trop, je vois pas l'intérêt.
Oui.
Mais je vous parlerai du livre de base peut-être un jour ou l'autre, mais 448 pages, il faut que j'ai le temps de les digérer. Il y a un Game Master Kit qui vaut 22 euros avec un écran. Il n'y a pas de dés dedans, mais cet écran, voilà, il y a une aventure par contre dedans. À chaque fois, de toute façon, les gammes à la Fantasy Flight de ce type-là, il y a toujours une aventure, donc ça, c'est plutôt bien. Il y a une campagne qui sort bientôt, la Beyond the Rim, qui coûte 30 euros. Donc le set de dés, c'est 15 euros. Et l'application de lancer de dés Android ou iOS, c'est 4,99 $. Voilà.
Ce sera tout.
Oui, ça, je vous aurai tout mis. Voilà, messieurs, dames.
Merci.
Merci.
Eh bien, nous allons en profiter pour faire une toute petite pause et nous revenons après.